Chapitre 4 où Chantecoq frappe un grand coup. À Auteuil, dans le grand salon de l'hôtel, Madame Mauroy, assise près d'une table, était plongée dans ses douloureuses pensées. Mademoiselle Bergen, le visage non moins altéré, lisait distraitement un journal. Lorsque M. Maurice de Thouars, l'air agité, fit irruption dans la pièce. Et tout d'un trait, il lança « Je vous apporte une bonne nouvelle. Jacques Bellegarde vient d'être arrêté chez le détective Chantecoq. »« Enfin !» s'écria Madame Mauroy en relevant la tête. « Quel soulagement !» s'écriait Mademoiselle Bergen. Et elle ajouta « Ah ça, mais ce Chantecoq jouait donc un double jeu ?»« Il se pourrait fort bien, » affirmait le comte Maurice, qu'il fut lui-même compromis dans cette affaire. Et tout de suite il ajouta « Je vais immédiatement me rendre au palais de justice. Là, je pourrais peut-être apprendre où ce misérable a emporté notre ami. » Madame Mauroy, à laquelle la nouvelle de l'arrestation de l'assassin présumé de sa sœur semblait avoir rendu une certaine partie de ses forces, s'écriait « Je vous accompagne !» « Ne craignez-vous pas, observait Mademoiselle Bergen, que ces nouvelles émotions achèvent de vous briser ?»« Non, martelait-la nerveusement la jeune femme, je veux savoir !» Et d'un pas saccadé, elle quitta la pièce, accompagnée par Monsieur de Thouars. Alors le valet de chambre, qui avait assisté à cette scène, s'avançait vers la demoiselle de compagnie et lui disait, la figure un peu rassérénée, « Enfin, notre pauvre demoiselle va être vengée. Il y a tout de même une justice, » conclut la Scandinave. « Sur le guillotine, » s'écria Dominique, « j'irai le voir exécuter. » Une heure après, un élégant landaulet stoppait devant la grille du palais de justice. Madame Mauroy, en grand deuil, et Maurice de Thouars en descendaient et pénétrait dans la grande cour. Le mieux à faire, déclarait le comte Maurice, est de nous adresser au juge d'instruction chargé de l'affaire. Et se dirigeant vers le garde municipal de Planton, il lui demanda le cabinet de monsieur le juge d'Arélie. Le garde donna à monsieur de Thouars toutes les indications nécessaires. Et après avoir gravi un escalier, ils arrivèrent à un couloir encombré d'avocats et de journalistes qui, ayant appris l'arrestation de Bellegarde, s'étaient empressés d'accourir aux nouvelles. Monsieur de Thouars griffonna quelques mots sur sa carte qu'il remit au cipal qui montait la garde à la porte du juge. « Veuillez remettre tout de suite ceci à monsieur d'Arelli. » Le garde prit le bristol. Puis, tout en le conservant dans sa main, il dit d'un air important « En ce moment, monsieur le juge procède à un interrogatoire et il m'a interdit de le déranger. Dès que l'accusé sera parti, je remettrai votre mot à monsieur le juge. » Et il ajouta à la formule sacramentelle « Allez vous asseoir. » Monsieur de Thouars comprit qu'il était inutile d'insister, et rejoignant Madame Mauroy, il lui fit prendre place sur un banc et s'assit auprès d'elle. Autour d'eux régnait une vive effervescence. Les commentaires les plus animés s'échangeaient. Un journaliste s'écriait « Je l'ai vu passer tout à l'heure, les menottes au poing entre deux gardes. Quand il m'a vu, il m'a lancé. Allez, dis à tous nos amis que je suis victime d'une erreur judiciaire et que je ne tarderai pas à être mis en liberté. Mais je vous assure que, sans crâner, il avait l'air bien tranquille et tout à fait sûr de lui. Pour moi, bon, il aura voulu suivre de trop près cette affaire et il se sera laissé prendre dans quelques traquenards. » Et le confrère de Jacques concluait tout en soupirant « Oh, quel sale métier, mes enfants, quel sale métier !» Laissant ses confrères troublés et indécis, le journaliste s'approcha d'un groupe au milieu duquel pérorait maître Alban, Troubaro, célèbre avocat d'assises. Tout en agitant ses manches, la toque sur l'oreille, le torse bombé sous sa robe, la tête légèrement renversée en arrière, il proférait de cette voix puissante qui avait si longtemps retenti dans la salle des assises. « Cette affaire s'annonce comme l'une des plus sensationnelles du siècle. D'après les renseignements que j'ai obtenus au parquet, la culpabilité de Bellegarde ne saurait faire aucun doute. Au cours d'une perquisition opérée à son domicile, on a découvert des documents accablants pour lui. Et je ne serais pas autrement surpris si tout à l'heure, nous apprenions qu'il est entré dans la voie des aveux. » Et, comme s'il se désintéressait vraiment de cette affaire, il fit, tout en désignant Madame Mauroy, qui, toujours assise sur le banc auprès de Maurice de Thouars, semblait, ainsi que ce dernier, absolument insensible aux propos qui s'échangeaient autour d'elle. « Quelle est cette femme en deuil? Elle est pas mal. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'une porte s'ouvrait. C'était celle du cabinet du juge d'instruction d'Arelli. Un grand silence s'établit instantanément. On allait donc savoir quelque chose. En effet, Jacques Bellegarde, toujours très calme, en franchissait le seuil avec ses deux gardes. À sa vue, Madame Mauroy s'était redressée en un élan spontané d'indignation et de colère, et avant que M. de Thouars ait pu la retenir, elle s'élançait vers le fiancé de Colette et lui criait « Misérable, qu'avez-vous fait de ma pauvre sœur ?»« Madame, protestait Jacques, je n'y suis pour rien. » Mais il ne put achever, les gardes l'entraînaient vers la sortie. Madame Mauroy voulut s'élancer sur ses traces, mais elle chancela. Et M. de Thouars la reçut dans ses bras, puis il la fit se rasseoir sur le banc, au milieu de l'émotion générale. C'est la sœur de Simone Desroches, glissa un stagiaire à l'oreille de Maître Troubarreau. Ah, vraiment ? Fit celui-ci. Il paraît, complétait le jeune avocat, qu'elle accuse Bellegarde d'avoir empoisonné sa sœur et d'avoir fait disparaître son corps. « Oh, oh !» murmura le grand avocat, « mais elle va certainement se constituer partie civile au procès !» Et s'avançant vers la jeune femme, il retira sa toque en disant « Je suis maître Alban Troubarreau. Voulez-vous que j'envoie chercher le docteur de service au palais ?» Mais il s'arrêta. Madame Mauroy venait de s'évanouir. Le même soir, vers 23h, un avion atterrissait dans une vaste prairie où l'on apercevait à une distance assez rapprochée les tours du château de Courteuil, baignées par la clarté de la lune. Deux voyageurs en descendaient, un homme en tenue d'aviateur, une femme en costume de voyage. Tous deux portaient des casques de cuir complétés par des masques qui dissimulaient entièrement leur visage. Un personnage qui, caché derrière une haie, avait assisté à leur atterrissage, s'avança vers eux. C'était M. Luchner, le secrétaire du baron Papillon. Sans échanger le moindre signe d'intelligence, ni la plus légère marque de politesse, ils s'entretinrent pendant quelques minutes à voix basse. Puis le bossu, leur désignant une sorte de hangar fermé, qui s'élevait à une des extrémités de la prairie et avait dû servir autrefois des tables nocturnes aux bestiaux qui, durant la saison, étaient mis au vert, « Fille, nous allons cacher là notre appareil. » Et il ajouta, « J'espère bien que demain soir tout sera terminé et que nous pourrons filer dans l'espace avec le trésor des Valois transformé en lingots d'or. » L'homme et la femme approuvèrent de la tête, et toujours sans prononcer un mot, aidés de Luchner, Ils poussèrent l'avion jusqu'au hangar dont la porte d'entrée à double battant avait été préalablement ouverte. Lorsque l'opération fut terminée, tous trois sortirent. Luchner boucla la porte à l'aide d'une très forte chaîne que garantissaient deux énormes cadenas de sûreté, et tous trois se dirigèrent vers le château. Mais au lieu d'y pénétrer par l'entrée principale, ils longèrent le mur de clôture jusqu'au moment où ils se trouvèrent devant une petite porte que le bossu ouvrit à l'aide d'une clé qu'il dissimulait dans l'une de ses poches. Avec ses compagnons, il pénétra dans le parc, referma la porte. Et après avoir longé une allée recouverte d'une espèce charmille, ils se perdirent dans la nuit, tandis que la lune se couvrait d'un lourd manteau de nuages et qu'au loin les chiens hurlaient lugubrement à la mort. Quelques instants après, par une fenêtre basse, il pénétrait à l'intérieur du château qu'aucune lumière n'illuminait et où tout le monde semblait dormir. Et le bossu, s'adressant à la femme masquée, murmurait « Maintenant, Belphégor doit être satisfait !» La femme masquée martela d'une voix grave « Pressons-nous, car Belphégor a hâte d'avoir des ailes !» À la même heure, devant l'hôtel de Simone, à la lueur d'un réverbère qui projetait sur l'asphalte du trottoir sa clarté blafarde et crue, deux agents montaient la garde. L'un d'eux disait à son compagnon, en lui montrant la maison dont aucune fenêtre n'était éclairée, « Mais tout à l'heure bien tranquille là-dedans, je ne sais vraiment pas pourquoi on nous a mis là. Sûr qu'on serait bien mieux dans son lit !» déclarait l'autre agent. « Enfin, la consigne est la consigne. Et puis, il faut pas s'en faire. » S'ils avaient pénétré dans le jardin de l'hôtel, peut-être malgré leur scepticisme, eussent-ils été moins convaincus de l'inutilité de leur présence. En effet, cachés derrière un buisson, ils eussent aperçu, drapé dans son suaire noir et la tête recouverte de son étrange capuchon, le fantôme du Louvre, Belphégor en personne, qui semblait attendre, pour se livrer à de nouvelles et mystérieuses opérations, que s'éteignit une petite lumière qui brillait seule à travers la porte vitrée du vestibule. Bientôt, cette porte s'entr'ouvrait, et Mademoiselle Elsa Bergen apparut. Elle se retourna, comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas été suivie, et promena son regard à travers le jardin. Sans apercevoir le fantôme qui se confondait avec la nuit, elle se dirigea vers l'atelier, se retourna encore, puis ouvrant la porte avec précaution, elle se glissa à l'intérieur du hall où régnait une obscurité profonde. Aussitôt, la demoiselle de compagnie manœuvra un commutateur. La lumière se fit, une lumière assez faible que diffusait un plafonnier central, mais suffisante cependant pour permettre à la Scandinave d'aller et venir dans la vaste pièce. Sans la moindre hésitation, Elsa Bergen se dirigea vers un bahut Renaissance. C'était celui qui avait appartenu au baron Papillon. Elsa Bergen appuya sur un ressort secret dissimulé derrière une charnière. L'un des battants s'écarta lentement et elle allait introduire son bras à l'intérieur du meuble lorsqu'un bruit léger lui fit s'y retourner. Le fantôme du Louvre était là, debout, immobile au-dessous du plafonnier. Nimbé d'une sorte d'auréole mystérieuse, il semblait encore plus terrifiant. Cependant, la demoiselle de compagnie n'eut qu'un très bref sursaut d'étonnement, mais elle ne manifesta aucune frayeur. Et tandis que Belphégor s'avançait, elle fit simplement « Comment, c'est toi, Simone ?» Le fantôme ne répondit pas. Mais brusquement, il se débarrassa de son suaire, de son capuchon et de son masque qui le tenait tout d'une pièce. Elsa Bergen, cette fois, poussa un cri de terreur. Chantecoq était devant elle. Comme elle demeurait figée sur place, le grand limier la saisit par le poignet et lui dit avec force « Parlons un peu, mais parlons bien !» Fermant les yeux, la Scandinave chancela. Chantecoq la retint et constata qu'elle n'était plus qu'une loque entre ses bras. « Évanouie, grommela-t-il, mais tant pis. Quand elle reviendra à elle, il faudra bien qu'elle me dise la vérité. » Et il s'enfuit la transporter sur un canapé. Tandis qu'il s'efforçait de la ranimer, Elsa Bergen tirait de son corsage un stylet à lame courte et, soit que le détective ne se fût pas aperçu de son geste, soit qu'il n'eût pas le temps de le prévenir, elle lui portait en pleine poitrine un coup violent de son arme. Chantecoq s'écroula à terre, foudroyé. La meurtrière se leva, considéra d'un air de triomphe le limier qui gisait à ses pieds, puis s'élança vers la porte. Mais au moment où elle allait l'atteindre, brusquement elle s'ouvrit, et Gautret, flanqué de Pandore et de Vidocq, lui barra résolument la porte. La demoiselle de compagnie eut un hurlement de bête traquée, auquel succéda un bruyant éclat de rire. C'était Chantecoq qui, dressé sur son séant, lui lançait « Ah ça, vous me prenez donc pour un digo !» D'un bond, il fut sur ses jambes, et rejoignant Elsa Bergen, qui le contemplait d'un air rempli d'épouvante, il s'arrêta à deux ou trois pas d'elle, et le détective, écartant brusquement son gilet, lui montra une fine cotte de maille qui lui entourait entièrement le buste. Puis il articula « Quand j'ai affaire à des bandits, je me tiens toujours sur mes gardes. » Puis braquant un revolver sous le nez de la Scandinave et lui arrachant le poignard qu'elle tenait toujours à la main, il martela sur un ton qui n'admettait pas de réplique « Maintenant à table !» Dominée par le regard impérieux du détective, la demoiselle de compagnie s'assit sur un fauteuil. Et tandis que Gautret demeurait en faction devant la porte, avec ses deux chiens, Chantecoq attaquait. « Voulez-vous, mademoiselle, m'expliquer tout d'abord pourquoi, lorsque vous avez vu apparaître le fantôme, vous vous êtes écrié « Comment, Simone, c'est toi ?»« Je ne vous répondrai rien », le limier reprenait. Je suis donc en droit de conclure que Mademoiselle Desroches est vivante et que c'est elle, Belphégor. Elsa Bergen gardait toujours le silence. Comprenant que, pour l'instant du moins, il ne tirerait rien d'elle, il commença par jeter un coup d'œil sur les objets qui l'environnaient. Et, apercevant le bahut Renaissance qui se profilait dans l'ombre, après avoir indiqué du doigt à Pierre Gautret la Scandinave qui, littéralement effondrée, le considérait avec angoisse, il s'enfuit vers le meuble dont il ouvrit largement les deux battants. « Ah, très bien, c'est donc cela !» s'écriait-il. Chantecoq venait en effet d'apercevoir suspendu à l'intérieur du meuble, un mannequin de cire qui reproduisait à s'y méprendre les traits de Simone Desroches. « Voilà du beau travail » fit-il. Je serais curieux d'avoir l'adresse de l'artiste qui a exécuté ce véritable chef-d'œuvre. » Et s'adressant à Elsa Bergen, dont le visage avait l'expression terrifiée d'un criminel qui se sent perdu et à la veille d'expier ses crimes, il fit « Je comprends tout. Grâce à ce mannequin, Belphégor pouvait à la fois reposer dans son lit et assassiner au Louvre. Être en même temps morte et vivante. Pas mal imaginé pour une femme poète. » Et tout à la joie de son extraordinaire découverte, le roi des détectives disait « Mon flair ne m'avait pas trompé. C'était bien ici que se trouvait la clé du mystère. » Puis, désignant le mannequin à Elsa Bergen, il fit « Maintenant que j'ai trouvé la copie, il va falloir me dire ce qu'est devenu l'original. » Mais la demoiselle de compagnie s'obstinait dans son mutisme. Chantecoq reprenait l'air menaçant. « Puisque vous ne voulez pas parler, je sais ce qu'il me reste à faire. » Et avec autorité, il ajouta « Allons, debout, et suivez-moi. Et au moindre cri de votre part, gare. Ce n'est pas à moi, mais à ces deux chiens que vous aurez à faire. Et je vous conseille de ne pas vous y frotter. » Jugeant toute résistance inutile, Elsa Bergen se leva. Et toujours sans proférer un mot, elle sortit de l'atelier avec Chantecoq, qui la tenait par le bras. Gautrel suivit avec ses deux Danois. Ils atteignirent ainsi la petite porte qui donnait sur le chemin des Lilas et par laquelle nous avons vu Chantecoq pénétrer dans le jardin. Une auto les attendait. Le détective y fit monter sa prisonnière. « Maintenant, ordonnait-il à Gautrey, tâchez de trouver un taxi et rentrez à la maison. » « Où m'amenez-vous ? » se décidait à demander la demoiselle de compagnie au détective. Celui-ci répondait avec un sourire gouailleur, « Au vers une retraite qui va vous assurer le pain pour vos vieux jours. » Pendant que Chantecoq accomplissait ce véritable coup de maître, une scène plutôt étrange se déroulait à son domicile particulier. Colette, qui avait décidé de ne pas se coucher tant que son père ne serait pas rentré, l'attendait dans le studio en lisant distraitement un ouvrage qu'elle avait vite abandonné. En effet, elle n'ignorait pas que le grand détective était en train de jouer une partie décisive et elle en attendait le résultat avec d'autant plus d'impatience qu'il ne pouvait manquer de provoquer la mise en liberté de Jacques Bellegarde lorsque la sonnette de la grille retentit d'une façon précipitée. « Ce n'est pas mon père, » fit-elle, il a sa clé. « Il ne sonnerait pas ainsi. » Intriguée, elle gagna la fenêtre et aperçut Marie-Jeanne, qui, au coup de sonnette, s'était précipitée dans le jardin et se dirigeait vers la grille d'entrée. Elle la vit parlementer un instant avec un individu qui se trouvait sur le trottoir, puis revenir vers la maison. À travers la fenêtre qu'elle avait ouverte, Colette lui lançait « Qui est-il, Marie-Jeanne ? » « C'est un chauffeur qui vous apporte un mot de la part de M. Chantecoq. »« Il vous l'a donné ?»« Non, mademoiselle, car il m'a dit que M. Chantecoq lui avait recommandé de ne le remettre qu'à vous-même. »« Seulement, comme M. Chantecoq nous a défendu de laisser pénétrer personne dans la maison, j'ai pas cru devoir le laisser entrer. »« Qui sait, en effet, si c'est pas encore un tour de Belphégor ?» Colette demeura un instant pensive. Puis elle reprit. « Marie-Jeanne, vous connaissez l'écriture de mon père ?»« Oh oui, mademoiselle, très bien, et je puis même déclarer que je la reconnaîtrai entre mille. » Et baissant la voix et se penchant vers la cuisinière qui s'était approchée, Colette dit. Vous allez demander à ce chauffeur de vous montrer simplement l'enveloppe. Et si c'est bien cela, vous le ferez entrer, car il se peut que mon père ait besoin de moi ou qu'il soit arrivé à l'accident. Vous avez raison, mademoiselle, de cette façon-là, nous serons fixés. Marie-Jeanne rejoignit le chauffeur qui attendait devant la grille. Et d'un ton résolu, car c'était une commère qui, dans les grandes circonstances ou dans les cas périlleux, n'avait pas froid aux yeux, elle lui dit « Je suppose que vous ne me racontez pas des blagues. Seulement par le temps qui court, on est obligé de prendre des précautions. » « Oh, je ne vous dis pas le contraire, ma bonne dame, et je trouve cela même tout naturel. Est-ce que vous ne pourriez pas me montrer simplement l'adresse de cette lettre ?»« Certainement. » Et sans lâcher la lettre, il la passa à travers les barreaux. « J'y vois pas clair, » fit Marie-Jeanne. Complaisamment, le chauffeur craqua une allumette qu'il approcha de l'enveloppe en disant « Vous voulez voir si c'est bien l'écriture de M. Shadcock ?» « Vous avez deviné juste, » répliquait la commère en écarquillant les yeux. Et presque aussitôt, elle ajouta « C'est cela. » Elle ouvrit la porte d'entrée au chauffeur en disant « Suivez-moi. » Et elle le conduisit jusque dans le studio où Colette attendait. « C'est bien vous, mademoiselle Shadcock, » fit le chauffeur, qui n'était autre que l'homme à la salopette. « Oui, c'est moi, » répliqua la jeune fille, tout en considérant son interlocuteur avec une instinctive méfiance. Le complice de Belphégor n'avait pas en effet, malgré le soin qu'il avait mis à composer son personnage, su rendre sympathique sa physionomie si naturellement peu rassurante. Colette, cependant, s'empara de la missive qui lui tendait. Elle regarda l'adresse, Marie-Jeanne ne s'était pas trompée, c'était bien l'écriture du grand détective. Elle décacheta l'enveloppe, déplia le papier qu'elle contenait, et lut tout haut ces mots tracés d'une main visiblement hésitante. « Ma chère enfant, « je viens d'avoir un accident d'auto assez grave, viens me retrouver, Shadcock. » Marie-Jeanne, affolée, se rapprocha de Colette qui était vivement émue. « Où se trouve mon père ?»« À l'hôpital de Mantes, où il a été transporté. »« Alors, il est grièvement blessé. »« Une jambe cassée. Mon Dieu !» L'homme à la salopette poursuivit. Prévoyant les questions que la jeune fille allait lui poser, comme la poste était fermée, il a fait demander une voiture au patron du garage où je travaille, afin que vous soyez prévenu plus tôt. L'auto est là et je puis vous conduire tout de suite à Mantes. Colette regarda l'homme bien en face. Un soupçon venait de traverser son esprit. Se rappelant en effet que son père était parti avec Gautret, elle se demandait pourquoi, dans son billet si laconique, Shadcock ne faisait aucune allusion à lui. Il y avait là évidemment un mystère qu'il s'agissait d'éclaircir. Et sans lâcher le regard du pseudo-chauffeur, elle articula « Mon père n'était pas seul. » Son valet de chambre l'accompagnait. Qu'est devenu celui-ci ? L'homme à la salopette eut un imperceptible battement de paupières qui n'échappa pas à l'œil exercé de la fille du détective. Puis il répliqua d'une voix un peu molle « Ah, ça, je ne sais pas, mademoiselle, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je fais la commission dont on m'a chargé. » « C'est tout ce que je puis vous dire. » Brusquement, Colette s'écriait « Vous mentez !» L'homme à la salopette, qui ne semblait nullement s'attendre à une pareille réplique, voulut protester. Mais la fille du détective, avec la bravoure qui la caractérisait, répétait avec force « Vous mentez, ce n'est pas mon père !» qui a écrit ce billet. » Et saisissant l'appareil téléphonique qui se trouvait à portée de sa main, elle voulut le décrocher. Elle n'en eut pas le temps. L'homme, à la salopette, tirant un revolver de sa poche, le braquait vers elle. Et tandis que Marie-Jeanne demeurait pétrifiée, il lançait d'une voix canaille et menaçante « Haut les mains toutes les deux ou je fais aboyer mon rigolo ?» Marie-Jeanne obéit, et Colette, admirable de courage, fit en se croisant les bras sur la poitrine « Que voulez-vous de moi ?»« Je vais vous le dire, » fit l'homme à la salopette tout en continuant à menacer de son arme la fille de Chantecoq. Chapitre 5. Belphégor. Au château de Courteuil, dans un cabinet de toilette d'une élégance un peu tapageuse et qui n'était autre que celui de la baronne Papillon, la femme que nous avons vue précédemment descendre d'avion était assise devant une coiffeuse. Debout près d'elle, son compagnon, qui avait conservé son costume d'aviateur, concentrait son regard dans la glace du petit meuble qui lui renvoyait l'image de Madame Mauroy. Celle-ci, après s'être débarrassée de son casque, se contempla un instant dans la glace. Un étrange sourire erra sur ses lèvres. Ses yeux brillaient d'un éclat de fièvre, on eût dit déjà une autre femme. Lentement, elle commença à enlever le maquillage habile qui mettait une légère patte d'oie au coin de ses paupières, accentuait le pli de sa bouche et donnait à son teint une pâleur de fatigue et de souffrance. Ce travail délicatement terminé, elle enleva sa perruque blonde et se tournant vers Maurice de Thouars, qui tout en épiant chacun de ses gestes la dévorait les yeux, elle s'écria, tout en lissant ses cheveux courts et bruns, d'une voix mordante sarcastique, « Ah, oh, la comédie est terminée, j'en avais assez de faire la morte. » Simone Desroches venait de ressusciter. « Vous avez été extraordinaire, » déclara M. de Thouars. « Dites, mon cher, que j'ai eu du génie, » affirma orgueilleusement Simone. « En effet, » reconnaissait le gentilhomme dévoyé, « rien que d'avoir eu l'idée d'une pareille affaire mérite une admiration sans bornes. Mais avoir joué jusqu'au bout et sans la moindre défaillance ce rôle de Belphégor que vous aviez assumé est une chose prodigieuse. » À chaque instant, je tremblais que vous ne fussiez découverte, et je dois vous avouer que Chantecoq m'a fait passer plus d'un frisson dans le dos. Simone eut un haussement d'épaule dédaigneux, puis elle reprit. « Bon, l'essentiel est que tout ait bien marché. Je reconnais d'ailleurs que j'ai été fort bien secondée, d'abord par la chance qui m'a permis de découvrir les précieux mémoires de Ruggieri, au fond d'un tiroir du bahut que j'avais acheté à cet imbécile de Papillon, puis par Elsa Bergen, qui a eu l'idée de me faire déguiser en fantôme, par Luchner, qui a fabriqué les fausses lettres signées Belphégor, et a fait exécuter dans le plus grand mystère ce merveilleux mannequin de cire grâce auquel j'ai pu si bien détourner de moi les soupçons de tous, par ce petit Jacques Teddy, qui s'est merveilleusement débrouillé, et enfin par vous aussi, mon cher comte, qui m'avez utilement aidé à donner le change aux gens de notre entourage. Croyez que je suis heureux que vous daigniez apprécier mon dévouement. » Simone reprenait. « L'essentiel est d'avoir réussi. Ah, il était temps. Maintenant, je puis tout vous dire. » « Oh oui, parlez, » invitait M. de Thouars. Car je ne sais que ce que vous avez bien voulu me révéler, c'est-à-dire très peu de choses, et je me suis contenté de vous obéir aveuglément. » Simone Desroches reprit. « Vous allez tout apprendre. Ma fortune était entamée à un tel point qu'il ne me restait plus que quelques centaines de mille francs, à peine de quoi vivre une année. Je ne pouvais guère espérer tirer de gros profits de mon talent de poétesse. Faire un mariage riche m'eût été possible, mais mon caractère indépendant se révoltait à la perspective d'être à la merci d'un homme qui probablement m'eût acheté comme on s'offre un bibelot de prix ou un jouet de luxe, et avec lequel j'eusse été aussi malheureuse que lui avec moi. Me lancer dans la galanterie, bof, les conséquences d'une aussi hideuse perspective me donnaient la nausée. Oh non, pas en vertu, mais car il y a beaucoup de temps que je me suis débarrassé de tout principe, c'était une question purement physique, voilà tout. Ah, croyez-moi, mon cher, avant d'avoir découvert le manuscrit de Ruggieri, j'ai passé des heures bien sombres. Mais dès que j'ai lu les mémoires du fameux astrologue de la reine Catherine, j'ai considéré l'avenir sous un aspect un peu plus agréable. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne prendrais-je pas au sérieux les révélations contenues dans ce grimoire ? Je n'ignorais pas que sous la Ruggieri de la légende, c'est-à-dire sous l'empoisonneur, l'envoûteur, le jeteur de sorts et de maléfices, se cachait un savant d'une rare envergure, confident de la reine sur laquelle il exerçait un énorme ascendant. Il n'y avait rien d'invraisemblable que celle-ci lui eût demandé de cacher le trésor des Valois dans une salle du Louvre, dont l'émeute allait la contraindre de s'éloigner, mais où elle comptait bien rentrer promptement en maîtresse absolue. Et puis, le ton de ses mémoires était tellement sincère que j'eus l'impression immédiate qu'il disait la vérité. Le tout était de savoir si le trésor se trouvait toujours dans sa cachette. Avant de courir le risque d'une expédition aussi aventureuse, je tenais à m'entourer de toutes les garanties de succès. Du côté de Ruggieri, j'étais tranquille. Enfin, à la fin de son grimoire, il expliquait clairement qu'après la mort de Catherine et l'assassinat de Henri III, plutôt que de faire bénéficier Henri IV, qu'il haïssait, des richesses dont il était désormais seul à connaître l'existence, et ne voulant pas s'emparer d'un bien qui avait été celui de sa bienfaitrice, il préférait qu'il restât enfoui pendant des siècles sous la dalle qui le recouvrait. Or, Catherine de Médicis, ainsi que Henri III, avaient dû s'enfuir précipitamment de Paris après la journée des barricades et n'avaient jamais pu pénétrer dans la capitale. Enfin, après avoir lu attentivement tous les livres et mémoires relatifs à l'histoire de ce temps, je constatais que nul ne parlait du trésor des Valois, ce qu'il n'eusse point manqué de faire s'il avait été découvert par la suite. J'en conclus que le trésor n'avait pas dû bouger de place. Il restait donc à m'assurer que la salle dont il était question existait encore. Je n'eus pas de peine à la retrouver. Elle était devenue la salle des dieux barbares, et grâce aux détails contenus dans l'écrit de Ruggieri et au plan très complet qu'il avait adjoint, je ne tardais pas à me rendre compte que l'entrée de la cachette se trouvait exactement sous le piédestal de la statue d'un dieu nommé Belphégor. C'était un sérieux obstacle que l'on ne pouvait déplacer que la nuit. Mais si le souterrain si nettement décrit par Ruggieri existait encore, rien ne m'était plus facile que de m'introduire au Louvre pendant la nuit et entre deux rondes de gardiens de faire le nécessaire. Elsa Bergen me proposa d'envoyer Luchner en reconnaissance. Mais, pour des raisons que vous devinez, je préférais agir moi-même. Maurice de Thouars ponctua. Ah, vous aviez peur que le bossu ne voulût profiter seul de l'aubaine. Évidemment. Il avait beau être le frère d'Elsa, je n'avais qu'à moitié confiance en lui. Ce fut alors que Mademoiselle Bergen me suggéra l'idée du fantôme. Oh, je l'acceptais d'enthousiasme. Et le lendemain soir, emportant dans un paquet la défroque que Kelsa avait confectionnée pour moi, je me laissais enfermer dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Oh, je vous assure que, bien que décidé à tout, lorsque je me sentis seul dans ce sanctuaire, je sentis mon cœur battre un peu plus fort que de coutume. Mais faisant appel à toute mon énergie, à toute ma volonté, je m'habillai en fantôme, et tout en m'éclairant à l'aide d'une lampe de poche, et en me guidant sur le plan que j'avais détaché du manuscrit, je me dirigeai ainsi qu'il l'indiquait vers la dalle qui se trouvait derrière le maître-autel et était marquée d'une fleur de lys. Toujours d'après les indications de Ruggieri, j'appuyai fortement le doigt sur cet emblème, d'ailleurs aux trois quarts effacé. Rien ne bougea. J'appuyai avec plus d'insistance. Il me sembla que la dalle remuait légèrement. J'appuyai de toutes mes forces. Elle bascula légèrement, puis demeura immobile, perpendiculaire au sol. Je la poussai afin de dégager l'excavation que j'entrevoyais déjà. Mais j'y parvins, non sans peine, et je m'engageai dans un escalier en spirale qui aboutissait au souterrain. Après avoir repéré une sorte de crypte qui devait ensuite me rendre au grand service, j'arrivai à un second escalier que je gravis et je me trouvai devant un mur. Je consultai de nouveau le plan de Ruggieri et je parvins à découvrir le mécanisme de l'entrée secrète qui devait me donner l'accès au Louvre. Mais il était tellement rouillé que je dus renoncer à le faire fonctionner. Je recourus alors aux bons offices de Luchner qui revint avec moi le lendemain. Oh, ce diable de bossu est vraiment d'une adresse surprenante. En effet, en moins d'une heure, il parvint à ouvrir la porte dissimulée dans la muraille. Nous nous trouvâmes alors sur la palier central de l'escalier de la Victoire de Samothrace. Alors, seul, sous mon suaire de fantôme, je gagnai la salle des dieux barbares. Et j'étais en train d'examiner la statue de Belphégor lorsqu'un gardien apparut. Je m'enfuis précipitamment, non sans avoir essuyé le feu de son revolver. J'ai même senti une des balles siffler tout près de ma tête. Et cependant, le lendemain, vous avez recommencé. Il fallait bien. D'ailleurs, j'étais assez tranquille. Jacques Teddy avait appris que la nuit suivante, le gardien en chef du musée avait obtenu de ses supérieurs l'autorisation de monter la garde seule dans la salle des dieux barbares. Cela ne nous arrêta pas. Je me munis d'un casse-tête. Et Simone scanda avec un accent diabolique. « Vous avez vu que je n'ai pas hésité à en faire usage. » Puis elle continua, comme si elle se délectait au souvenir de ses formidables et terribles exploits. Une fois débarrassé de ce témoin gênant, j'appelai Luchner et l'homme à la salopette qui m'attendait dans une salle voisine. Tous deux se mirent à pousser la statue afin de découvrir l'entrée de la cachette. Mais ce maudit Belphégor, qui n'était pas vissé à son socle, dégringola sur les dalles, ce qui produisit un bruit considérable. Craignant que cela n'eût éveillé l'attention des gardiens ou des policiers qui pouvaient se trouver dans les environs, nous nous empressâmes de déguerpir. « Et après cela, s'écriait Maurice de Thouars, vous avez eu l'audace de revenir encore. » Parfaitement, mais cette fois, nous faillîmes tomber sur ce qu'on appelle vulgairement un bec de gaz. En pénétrant seul dans la salle des dieux barbares, où avant d'agir avec mes deux hommes, il était impossible que je fisse une reconnaissance, qu'est-ce que j'aperçois en train d'examiner ce pauvre Belphégor qui, étendu sur les dalles, faisait une hideuse grimace? Jacques Bellegarde. Je m'approchai de lui à pas de loup, bien décidé à lui faire subir le sort du gardien Sabara. Vous dites, laissez-moi continuer. Captivé par ses recherches, il ne m'avait ni vu ni entendu. Je pensais, toi, ton affaire est bonne. Mais à peine avais-je levé le bras pour lui asséner un coup de matraque, qu'une main se posait sur mon poignet. C'était celle d'un vieux monsieur. Oh, j'ai su depuis que c'était Chantecoq, qui sortit je ne sais d'où, intervenait de si fâcheuse manière. De mes mouvements brusques, je me dégageai, je m'enfuis. J'escaladai 4 à 4 l'escalier de la Victoire de Samothrace, poursuivi par Bellegarde à coups de revolver qui ne m'atteignirent pas. C'est à croire que je suis invulnérable. Arrivé sur le palier, au moment où il allait m'atteindre, je lui assénai un coup de matraque sur la nuque. Bien qu'il ait porté à faux, Bellegarde tomba, et j'allais me précipiter vers la porte secrète, derrière laquelle Luchner et l'homme à la salopette m'attendaient, lorsque, en haut de l'escalier, des lumières scintillèrent. C'était une ronde de policiers, tandis qu'en bas, une voix, celle de Chantecoq, clamait « Barrez-lui la route, nous le tenons !» Alors d'un bond, je m'élançai vers la porte secrète que le bossu referma derrière moi. Oh, il était temps. Mais j'avoue que ce soir-là, j'ai bien cru que la partie était perdue. Vous avez cependant récidivé. Oui, car je me suis tenu le raisonnement suivant. Devant tant d'insistance, la police, persuadée que le fantôme du Louvre reviendra certainement dans la salle des dieux barbares, va y établir une souricière. Oui, ce qui s'est produit, en effet. Mais l'inspecteur Ménardier, chargé d'arrêter Belphégor, avait compté, sans les ressources de mon imagination. C'est vous qui avez eu l'idée des gaz somnifères? Oui, oui, c'est Luchner qui s'est chargé de les fabriquer. Cette fois, tout s'est admirablement passé. Et maintenant, mon cher, vous en savez aussi long que moi-même. Tout aussi tranquille que si elle se fût trouvée dans son boudoir, elle prit dans un étui en or qui se trouvait sur la coiffure une cigarette orientale qu'elle alluma et dont elle lança au plafond les premières bouffées. Maurice de Thouars demeura un instant silencieux. Hypnotisé par cette femme extraordinaire qui incarnait vraiment le génie du mal, de plus en plus dominé par sa beauté et plus encore par son charme infernal, il la contempla d'un œil ardent de convoitise. Tout à coup, Simone éclata de rire. « Voyez-vous, fit-elle, qu'il prenne au papillon l'idée de se rendre ici ?» Le bel âtre esquissa un geste d'inquiétude. Toujours en ricanant, Simone Desroches reprenait. Oh, soyez tranquille, Luchner m'a donné à ce sujet tous les apaisements nécessaires. D'ailleurs, s'il pesait à ce délicieux ménage de nous jouer ce mauvais tour, il ne serait pas long à faire connaissance avec les oubliettes que ce crétin de papillon a fait reconstituer. De cette façon, elle servirait à quelque chose. Et fixant à son tour Maurice de Thouars, dont la passion qu'elle lui inspirait se révélait sur ses traits, elle ajouta, cette fois sur un ton de coquetterie féminine, « Et vous, c'est tout ce que vous trouvez à me dire? Peut-être ai-je eu tort de vous raconter toutes ces choses. Et maintenant, vous n'osez plus parler d'amour à celle qui n'a pas craint de se faire l'égale des plus grandes criminelles des temps passés et des modernes ?» Simone, protestait le comte Maurice tout frémissant, moi, je vous jure au contraire que je ne vous ai jamais autant adoré et que rien désormais ne pourra me séparer de vous. Même si je vous ordonnais de disparaître de ma vie, monsieur de Thouars blêmit. Puis d'une voix rauque où il y avait à la fois tous les désespoirs et toutes les prières, il s'écria « Oh non, ne me demandez pas cela, oh, ne m'imposez pas une aussi terrible épreuve, j'ai déjà trop souffert, oh, je ne supporterai pas un tel surcroît de douleur. » Et tandis qu'une flamme de menace illuminait son regard, il martela en serrant les poings, « Et qui sait alors ce qui arriverait ?» Simone se releva et marcha droit sur lui. Puis l'entourant de ses bras, elle fit avec un accent qui révélait enfin le secret qu'elle avait été assez forte pour garder en elle. « Mais imbécile, c'est toi que j'ai toujours aimé !» Bouleversé, M. de Thouars allait lui crier sa joie, son ivresse. Mais Simone lui mit la main sur la bouche en lui ordonnant. « Oui, je sais ce que tu vas me dire, belle garde, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais tout te raconter. J'ai été, je l'avoue, attiré vers ce journaliste. Et j'avais même eu l'espoir que je pourrais trouver en lui un auxiliaire, ou plus précisément un complice. » Mais j'ai tout de suite compris que je faisais fausse route. D'abord, c'était un honnête homme, et puis il n'avait pour moi qu'un caprice vite dissipé. J'en fus, je ne le cache pas, tellement mortifié dans mon honneur de femme que je me mis à le haïr férocement. Et ce fut alors que j'eus l'idée de lui mettre sur le dos les exploits de Belphégor. Mais avant tout, pour atteindre mon but, il était indispensable qu'il me crût toujours passionnément attaché à lui. Voilà pourquoi je lui jouais la comédie que vous savez, mais qui m'a fait tant souffrir. Ne vous en plaignez pas, puisque votre chagrin m'a permis de me rendre compte que vous m'aimiez ainsi que je l'entends être. Oui, aveuglément, passionnément, affirmait le beau Maurice. Et sur un ton de tendre reproche, il ajouta « Oh, si j'avais su, si j'avais pu deviner !» Les amoureux sont trop imprudents pour qu'on leur fasse d'entière confiance. Je jouais une telle partie qu'une phrase, un mot, un rien pouvait la compromettre. Bien qu'il m'en coûtât de vous torturer, je ne voulais pas risquer de perdre la victoire. Mais à présent que le trésor des Valois est à nous, je vais pouvoir enfin réaliser un rêve dont j'avais fait ma devise, vivre ma vie, c'est-à-dire partir loin, très loin, voyager sans cesse à travers des pays nouveaux, inconnus, sous les cieux les plus divers, en pleine nature, parmi des paysages de songes, des décors formidables. Et cela, avec l'homme que j'ai choisi librement entre tous, avec celui que j'aime, avec toi, toi. » Un long baiser, celle-là, ce pacte que contresignait, le crime, la lâcheté, l'infamie, toutes les hontes. On frappait à la porte, les deux amants se séparèrent. Simone, d'un ton irrité, proféra « Entrez !» La silhouette du bossu apparut. À sa vue, Mademoiselle Desroches eut un geste d'impatience. Avec un sourire hypocrite, Luckner disait « Excusez-moi de vous déranger, mais le temps presse. » Simone et Maurice de Thouars l'interrogèrent du regard. Le bossu reprit « Mais vous oubliez que nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de Shandcock. Et tant qu'il sera vivant, nous pourrons toujours redouter qu'il découvre notre piste. » C'est juste, ponctua le belâtre. Mais Simone s'écriait d'un air mystérieux et menaçant. Belphégor n'a pas dit son dernier mot. Et M. Shancock fera bien de ne pas se mettre en travers de notre route, car je lui ménage une surprise à laquelle il ne s'attend pas. M. de Thouars et Luchner échangèrent un regard de surprise. Alors, d'une voix stridente, Mlle Desroches leur lança « Puisque vous n'avez pas été assez adroit pour le supprimer, ou tout au moins pour l'empêcher de nous nuire, moi, j'ai fait le nécessaire. Dans quelques heures, la fille de notre ennemi sera entre nos mains. Nous verrons bien alors si M. Shancock ne fait pas camarade. » Le bossu allait parler, mais d'un signe de patience, elle lui imposa silence. Puis elle fit sur un ton d'autorité souveraine « Allons nous reposer. Au point du jour, nous commencerons la fonte de l'or. » M. de Thouars fit un pas vers elle. « À demain, » lui dit-elle. Et s'approchant de lui, elle lui dit tout bas « À toujours. » Et soulevant une portière, elle disparut dans une pièce voisine. « Quelle femme !» grommela le bossu. « Mais malgré tout, je ne serai tout à fait tranquille que quand j'aurai ma part du magot. »